Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Que parfois, on prépare des messages pour les autres, puis on leur reçoit un boomerang en arrière de la tête, puis on se dit, c'est pas moi qui ai lancé ça, mais c'était un boomerang. Fait que c'est comme si Dieu me disait, tu as besoin de ce message-là, tu as besoin de mettre quelque chose en pratique, puis de l'enseigner en même temps, mais dans une, quelque chose qui est très vrai, de quelque chose qui me touche de proche. Donc, le titre de la série, c'est « Recommencer », deuxième message. Puis, la meilleure façon de commencer à étudier sur les commencements ou les recommencements, c'est le livre de la Genèse. Des fois, on pourrait dire, « Ah, tu ne crois pas à ça, toi, un homme, une femme nus dans un jardin. » Tu sais, puis, on peut trouver ça ridicule. Ou les gens peuvent des fois trouver ça ridicule. Beaucoup pensent que la Genèse, c'est un livre d'histoire, que c'est un conte. Mais qu'est-ce qui fait que les chrétiens croient que c'est un livre historique, que ça s'est passé comme ça, puis qu'il y a eu deux humains qui ont été créés de la part de Dieu au départ? Bien, Jésus-Christ, quand il référait à la Genèse, il référait de façon littérale. Il disait, par exemple, dans Matthieu 19, 4 à 6, il disait, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? » Jésus référait à la Genèse, puis au récit de la création, comme étant quelque chose de littéral. Il parle d'Abel, puis de Caïn, en disant que depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple, il parle d'événements qui sont arrivés, autant Zacharie qu'Abel ont existé, puis qui ont vécu, qui sont morts, dans Luc 11, 51. Le déluge, on a des carcasses de gros poissons sur les hautes montagnes, des baleines et tout ça. On a des traces d'un cataclysme à l'ordre universel là, de la terre. Mais Jésus a dit aussi dans Matthieu 24, il dit, « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Jésus aussi, il parlait avec les pharisiens de son temps, puis il disait, « Si vous croyiez Moïse, vous croiriez aussi en moi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, vous ne croirez pas non plus à mes paroles. » Et donc, Jésus, en disant ça à ceux qui étudiaient les écrits de Moïse, que la Genèse est un des écrits de Moïse, « Si vous n'êtes pas capable de croire que Dieu a créé le monde en 7 jours, ou en 6 jours, puis le 7e s'est reposé, qu'il y a eu un Ève, qu'il y a eu un Adam, une Ève, un Adam, qu'il y a eu la chute, qu'il y a eu un déluge, qu'il y a eu toutes ces choses-là, les choses qui sont écrites par Moïse, si vous n'êtes pas capable de croire ça, bien, vous ne pouvez pas non plus croire les paroles de Jésus. » Fait que nous autres, on prend bien à cœur Jésus parce que c'est rare un homme qui annonce sa mort et sa résurrection, puis qui accote ça. Il dit qu'il va le faire, puis en plus, il le fait. S'il le fait, c'est mieux d'aussi croire aussi tout le reste de ce qu'il dit. Et lui, il parlait de la Genèse comme quelque chose de littéral. Donc, si on n'est pas capable de croire le récit de la Genèse, peut-être qu'on n'est pas capable de croire non plus Jésus. Puis c'est pour ça qu'on prend bien au sérieux les enseignements de Jésus, donc de la Genèse aussi. Qu'est-ce qu'on apprend dès les premiers chapitres de la Genèse? On apprend qu'on est dans un monde déchu et un monde marqué par les pertes. Dès les premières pages ou même les premiers versets. Déjà les 3 premiers versets, au commencement Dieu créa. Déjà dans les 3 premiers versets, on ne voit pas nulle part dans le récit de la création des anges. On ne voit pas la création du paradis céleste. On ne voit pas toutes ces choses-là. Donc Dieu nous a montré ce qui est important pour nous de savoir. Mais quand on lit dans le reste de l'Écriture, on s'aperçoit dans Ézéchiel 28 qu'il y a eu un paradis céleste. Qu'il y a eu dans Ésaïe 14 aussi, Satan qui s'est rébellé avec les anges, puis ça a amené déjà un chaos Il y a eu quelque chose qui a été brisé dans le ciel. Déjà, c'était dans les trois premiers versets, c'est devenu informe et vide. Il y a eu un bordel qui s'est mis, en façon de parler. Déjà, les trois premiers chapitres, la grande rupture entre l'homme et son Dieu. Les choses ne tournent pas comme elles pourraient tourner. Et là, il y a une grande rupture. Un monde marqué par les pertes. On a perdu la relation avec Dieu dès les trois premiers. Déjà, dans le quatrième chapitre, on vit dans les pertes causées par la mort. La mort est entrée dans le monde, mais pas juste ça. Les relations sont brisées aussi par le péché, la jalousie, le meurtre. Sixième chapitre, déjà, on voit Dieu qui dit « Pourquoi est-ce que j'ai fait l'homme? » Pourquoi est-ce que j'ai fait l'homme? Son cœur ne se tourne que vers le mal. Des relations brisées par le péché. Un monde marqué par les pertes. Perte de ce que ça aurait pu être. Perte de ce qu'un monde aurait pu être dans l'obéissance. T'sais. Mais, dès le début, dès les premières pages, avant la chute, on voit aussi un monde d'hommes libres. Un monde de femmes et d'hommes libres qui sont responsables d'aimer Dieu plus qu'une chose. Cet arbre-là. Puis on voit aussi un monde marqué par la liberté après la chute, responsable de dominer le péché qui se couche à notre porte. Responsable de le péché se couche à la porte, disait Dieu à Caïn, déjà qui avait tué son frère. Puis, comme un chien qui n'a pas mangé ça fait longtemps, qui est couché sur le pied de ta porte, puis dès que tu rouvres, il va vouloir rentrer, puis rentrer chez lui, il a froid ou il a faim. Bien, le péché est un petit peu comme ça. Il se couche à notre porte, puis attend son occasion pour rentrer. Mais Dieu disait à Caïn, « Toi, domine sur lui. » Donc, l'homme est encore libre. Puis, c'est peut-être ce que je veux amener, gros, puis je l'ai amené la semaine passée, c'est que dans un monde qui est marqué par les pertes, on est encore des hommes et des femmes responsables. Puis, je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire par là. Mais depuis la chute, on est responsable d'aimer un seul Dieu au milieu de plein de tentations. Avant, c'était facile. Il fallait choisir de l'aimer, sauf une tentation. Là, ça a changé. On aime un Dieu plus que toute autre tentation. Mais on est encore des hommes et des femmes libres. On n'est pas juste des victimes de notre premier père, Adam, qui nous a mis dans le trouble. Adam, Ève, surtout Ève, hein? On n'est pas seulement les victimes dans un monde déchu, mais on est aussi des hommes et des femmes libres. Puis la question que je pose au début de mon message, c'est comment est-ce qu'on peut agir en tant qu'être responsable dans un monde qui est marqué par les pertes? Toujours en guise d'introduction, dans les premières pages de la Bible, on s'aperçoit aussi qu'il y a des leçons importantes sur notre identité, qui nous sommes. Dieu crée un monde, le donne à l'homme et à la femme, puis dit « dominez dessus ». L'homme va exercer son pouvoir de co-régent avec Dieu, c'est-à-dire régner avec Dieu. Puis Dieu va lui dire, comment tu veux les appeler, ces animaux-là? Et là, c'est l'homme qui va choisir les noms qu'il va donner. Donc, vraiment, il dit, gars, c'est ta place, tu places les meubles comme tu veux, c'est ta maison, tu es chez toi ici. Puis les hommes, les animaux, je leur ai donné une crainte pour qu'ils te craignent, puis que tu sois en autorité sur lui. L'homme a une grande valeur, il participe avec Dieu à la domination du monde, physique, il marche avec son Dieu, puis là, la chute arrive. Et là, ça vient compliquer les choses parce que là, l'homme ne se voit plus lui-même comme Dieu le voit et l'homme est blessé et ne se sent plus à la hauteur d'un Dieu qui est saint. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui se cache, un homme qui tente d'obtenir l'approbation qu'il avait perdue, qu'il a perdue, et il va accuser le monde, puis les autres autour, à cause de son insuccès, puis il va détruire il va détruire celui qui est meilleur que lui. Fait qu'en étudiant les recommencements, on va en apprendre sur notre identité, on va apprendre sur notre liberté, qu'on n'est pas juste des victimes de notre passé, puis qu'on doit réaliser que quand on blâme l'autre ou les circonstances, ça nous empêche d'avoir un meilleur futur. Si je veux qu'on retienne quelque chose aujourd'hui, c'est que c'est impossible de vivre dans le blâme puis d'avoir un meilleur futur. C'est impossible de vivre dans les blâmes puis d'avoir un meilleur futur. Comme je vous disais, mon message, quand je l'ai préparé, c'est devenu comme un boomerang pour moi-même parce que je demandais l'avis de ma femme sur une situation, sur quelque chose où je me sens impuissant. Je savais que ma femme, elle était sur point de me donner une réponse, puis je lui ai dit de ne pas me la donner. Pourquoi? Parce que je savais que sa réponse, je ne voulais pas l'entendre. Parce que sa réponse me sortait de l'excuse « je suis le résultat de mon passé », puis elle m'amenait dans, elle me sortait de l'immobilisme et elle m'amenait à dire « non, tu es responsable de ce que tu choisis, tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé totalement dans ton passé, mais tu es responsable de ce que tu pourrais choisir ». Je ne voulais pas l'entendre, j'ai dit « tu… » Puis là, je dis « non, dis-moi pareil, là. Ah, ok, dis-moi-le, mais ça se peut que je ne fasse rien avec ce que tu vas me dire, mais dis-moi-le pareil ». Mais je savais bien trop que, qu'est-ce qu'elle était pour me dire. Elle va me dire que je suis obligé de changer quelque chose, que je ne suis pas juste une victime, mais je peux changer des choses. Vous savez, quand on blâme les circonstances, on regarde, on se dit, « Regarde l'état misérable dans lequel je suis. » Ça, c'est confortable. Parce que l'état misérable dans lequel je suis, c'est à cause de mes parents. C'est à cause de ma job, mon boss qui m'a mis dehors. C'est à cause de ma femme qui m'a quitté. C'est à cause, regarde l'état, c'est à cause que le docteur m'a dit que j'étais malade. C'est ça, regarde l'état misérable dans lequel je suis. Mais il y en a de la misère dans le monde parce qu'on est dans un monde déchu. On est dans un monde caractérisé par la misère. Mais pendant que je dis, regarde l'état misérable dans lequel je suis, je pense que parce que d'autres choses ou d'autres circonstances, d'autres gens m'ont placé dans cette situation-là, que je ne peux rien faire avec ça. Si tu veux. OK? Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Et donc, comme un poisson, on se laisse emporter dans les conséquences qu'on n'a pas voulu. On se laisse emporter. Ce n'est pas nous qui avons voulu ça. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais là, quand on fait ça, tranquillement, on se laisse emporter, puis on dit des choses comme « c'est pas de ma faute ». Mais aujourd'hui, vivre dans les blâmes, c'est de refuser d'avancer dans un meilleur futur. Vivre dans les blâmes, c'est refuser d'avancer dans un meilleur futur. Parce qu'au lieu de faire des choix pour essayer de changer ma situation, je mets mon énergie à croire que je suis le résultat des choix des autres. C'est pas ma faute, c'est… un tel. C'est pas de ma faute, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est pas de ma faute, c'est à cause. C'est à cause. Au lieu de trouver en moi une attitude pour affronter l'avenir, je me condamne à ne pouvoir rien faire pour cet avenir-là. Puis au lieu de lutter pour devenir meilleur, je lutte pour prouver que je ne suis pas si pire que ça. Les blâmes, c'est aussi un très bon écran protecteur parce que tu ne me verras pas dans mes fautes parce que t'es aussi pire que moi, ou parce que c'est toi, c'est à cause de toi si moi j'ai fait ça. Et donc, ça devient aussi un écran protecteur pour prouver que mon identité n'est pas affectée. Okay? Et donc, on parle des blâmes ce matin. Avez-vous une mentalité de victime? Êtes-vous victime de votre passé? Êtes-vous immobile, emprisonné par des circonstances que vous ne pouvez pas contrôler? Est-ce que vous blâmez votre passé ou les gens de votre passé? Est-ce que vous avez peur de perdre l'amour et le respect des autres au point d'utiliser le blâme comme un écran protecteur? Est-ce que vous êtes comme moi, plus facile à blâmer les gens ou les circonstances que de vivre comme une personne qui est responsable dans un monde déchu ou dans un monde qui est marqué par les pertes? Si c'est le cas, vous êtes comme moi, marqué par une humanité déchue. Okay. Et donc, on n'est pas tout seul, on a juste besoin de retourner dans Genèse chapitre 3, au verset 7. Après la désobéissance, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et que je me suis caché. » Et l'Éternel dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit, défendu de manger? » Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce qui était acceptable, c'est-à-dire gambader dans les champs sans trop de vêtements, ce qui était acceptable devient tout d'un coup mal parce qu'elle a mangé d'un arbre de connaissance du bien et du mal, puis ne connaît plus la moralité au travers sa relation avec Dieu, mais il la connaît comme étant lui-même juge de ce qui est bien et de ce qui est mal. L'homme, maintenant, se voit devant Dieu comme quelque chose qui lui manque. Il se sent comme s'il n'est pas à la hauteur pour son Dieu. Il se cache parce qu'il lui manque quelque chose. Et l'homme va se cacher. Au lieu de dire « Voilà, voici tel que je suis devant mon Dieu », il se cache, puis entend la voix de son Dieu, puis il se cache et il a peur. Parce qu'il est attaqué dans son identité, il ne se sent plus à l'aise de se présenter devant un Dieu qui est trois fois saint. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit dans ce texte-là? Un Dieu qui cherche l'homme et qui l'aime. Un Dieu qui dit, « T'as fait quoi? C'est quoi qui arrive? T'as-tu mangé de l'arbre? Qui t'a appris que tu étais nu? » Intéressant. Un Dieu qui cherche à conquérir, à comme d'habitude, venir marcher à la tombée du jour dans le jardin. Et Adam, bien sûr, de répondre, « C'est de ma faute. Tu me l'avais demandé, j'ai pas obéi. Oui, j'ai pris de l'arbre défendu, puis je suis prêt à en assumer la pleine responsabilité. Dieu laisse Ève en dehors de tout ça. » C'est ça qu'il a répondu? C'est pas ça qu'il a répondu, hein? Qu'est-ce que Adam a répondu? L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'homme, de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » Et la femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Finalement, Dieu et Ève devraient s'asseoir ensemble, réparer ce qu'ils ont brisé, puis après venir me demander pardon. C'est un peu ça qu'Adam est en train de dire ici. Dieu, la femme que tu m'as donnée. Qu'est-ce qui arrive? Comme nous, sommes humains et déchus, dans un monde qui est marqué par les pertes, ce n'est pas de notre faute si on a perdu quelque chose. C'est de la faute de l'autre. Donc, Dieu et Ève devraient s'asseoir ensemble, régler ça, puis venir me demander pardon. C'est presque toute la vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Dans un monde qui est marqué par les pertes, il y a une douleur, on vit des douleurs. Laisse-moi juste voir où je suis dans mes notes ici. OK. Donc, Dieu va embarquer dans le jeu juste avant. Là. Dieu embarque dans le jeu parce que, dans le fond, l'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi. » Alors, qu'est-ce que Dieu fait? « Ah, ben OK. Je vais demander à la femme d'abord. » Fait que lui, il dit, « Ben non, Adam. » Il embarque dans le jeu. « Ah oui, Ève, ben Ève, pourquoi tu as fait ça d'abord? » « Ah, ben c'est pas moi, c'est le serpent. » Elle aussi, elle a quelqu'un à accuser. Il y a quelqu'un à accuser. Donc, Adam dit que c'est Dieu et la femme dit que c'est le serpent. Puis, qu'est-ce qui est en jeu? C'est l'identité. Écoutez bien, la peur de perdre l'amour et le respect est au cœur de notre lutte d'identité ou notre lutte identitaire. Il y a quelque chose qui est brisé, la relation avec Dieu est brisée et ça l'amène de la douleur. Ça leur amène de la douleur. Et au lieu de s'efforcer à prendre responsabilité, qu'est-ce qu'on fait? On répond à la douleur. Fait qu'au lieu de dire, OK, j'ai fait ça, maintenant, on fait quoi à partir de maintenant? À cette heure que je l'ai fait. Non, parce que si je dis que je l'ai fait, je ne vais plus être aimé autant par lui. On est devenu, depuis la chute, attaché à ce qu'on fait. Alors que mon identité, c'est qui je suis, et les actions, mes échecs ou mes réussites sont ce que je fais. Mais là, à cause de notre chute devant Dieu, on se dit qu'on est moins aimé par Dieu. Et Adam ne veut pas que Dieu l'aime moins, fait qu'il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi parce qu'il veut avoir encore le respect et l'amour qu'il sent qu'il a perdu. Il a perdu sa relation avec Dieu. Puis il veut montrer à Dieu qu'il ne mérite pas de perdre cette relation-là. Et il a besoin, dans le fond de son cœur, d'être aimé et accepté par son Dieu. Fait qu'il essaie de défléchir la faute sur l'autre pour montrer à Dieu, c'est quoi Dieu? Je ne suis pas si pire que ça. Et donc, depuis la chute, on est profondément affecté par le rejet, entre guillemets, de notre Créateur ou la séparation avec notre Créateur. Et là, il y a une douleur qui est là, puis au lieu de répondre à la douleur en disant, j'ai fait ça, mais ça a l'air que tu m'aimes, tu es en train de venir me chercher, on fait quoi à partir de là? On restaure ça comment? On rachète ça comment? Qu'est-ce qu'on fait? On crée une autre douleur. On répond à la douleur en créant une autre douleur, qui est le blâme. Et donc, au lieu de prendre responsabilité, on lutte pour prouver qu'on n'est pas responsable de ce qui est arrivé. Et ce qu'on fait est devenu attaché à ce que nous sommes. Et là, la peur d'être rejeté domine nos cœurs. Neil Anderson, dans son livre « Nouvelle identité pour une nouvelle vie », un livre que je vous conseille comme chevet, qui nous aide à justement dire « Attends, là, je fais des choses mauvaises, mais ce n'est pas ce que je suis. » Et il nous parle beaucoup sur notre identité, nouvelle identité pour une nouvelle vie. Dans la page 115, il raconte une histoire avec son fils. Fait que dans le fond, je vous lis la petite histoire. Quand nos enfants étaient petits, un jeune couple qui avait fait du babysitting pour nous leur a donné chacun un hamster. Les enfants ont appelé leur hamster du même nom que le couple. Celui de Carl s'appelait Johnny et celui de Heidi s'appelait Patricia. Un soir, en rentrant du travail, je vis ma femme, Joanne, qui m'attendait sur le pas de la porte. « Tu devrais parler à Carl », me dit-elle solennellement. « Qu'est-ce qui s'est passé? » « Je pense que Carl a lancé Johnny cet après-midi. » Oups. OK. Donc, je crois que Carl a lancé Johnny cet après-midi. Je suis allé trouver Carl et je lui ai demandé, « Est-ce que tu as lancé Johnny cet après-midi? » « Non, » répondit-il fermement. S'il l'a fait, accusa Heidi comme seule une grande sœur pourrait le faire. Ils se chamaillèrent quelques instants, mais Carl ne voulait pas admettre avoir lancé son hamster. Malheureusement, pour le pauvre Carl, son copain l'avait vu lancer son hamster et confirmer son acte. Une fois de plus, je suis allé parler à Carl, cette fois avec une des grandes battes de baseball en plastique qui font beaucoup de bruit sur le derrière d'un enfant sans faire beaucoup de mal. « Carl, le fait de lancer Johnny, c'est pas grave, mais je voulais que tu sois honnête avec moi. » Est-ce que tu l'as lancé? Non. Pam! Carl, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as lancé Johnny? Non. Pam! Quelles que soient mes menaces, Carl ne voulait pas avouer. J'étais irrité. J'ai finalement laissé tomber. Intéressant cette histoire-là du hamster. La peur de perdre l'amour et le respect. C'est basé sur une identité qui trouve sa racine dans les performances. C'est les valeurs du monde qui sont attachées à nous, puis on a besoin de paraître, et non d'être accepté, mais de paraître être accepté. Et donc, notre identité est basée sur « je ne suis plus rien aux yeux de Dieu puisque j'ai désobéi à ce qu'il m'avait demandé ». C'est le fruit de la chute. Alors, Dieu nous aime. Cette peur-là nous paralyse de voir notre part parce que quand on a peur de paraître celui qui n'est pas aimable, entre guillemets, ou perdre l'amour ou le respect de la personne offensée ou de Dieu, on n'est pas en mesure de dire vraiment qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui a été mal, qu'est-ce qui a été ma peur. Parce que vous savez, si on ferait un cercle puis qu'on regardait nos vies, là, puis dans les endroits où on est vraiment, on souffre. Est-ce qu'on ferait, on diviserait ça en deux, puis on dirait, ah, il y a 50% de ma part, 50% de l'autre. Il n'y a pas d'histoire là-dedans. Même 25%, un quart de cercle, où ce que c'est ma responsabilité, puis 75% de l'autre, c'est pas assez croustillant. C'est quoi surtout qu'on fait? C'est un enfoiré de merde. Puis là, on dit, dans le fond, 90%, c'est l'autre. C'est mon enfance, c'est ce que j'ai vécu. On a un gros sac de 90% de ce que c'est les autres. Mais, tu sais, il faut que je l'avoue, j'ai peut-être un 10%. Alors, quand on a peur d'avoir perdu l'amour ou le respect, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer sur le blâme. Pourquoi? Bien, parce qu'on est paralysé, puis on n'est pas capable d'aller voir ce qui a été fait en nous. Et ça nous empêche d'être sécure pour avancer. Alors, le petit graphique ici, dans le fond, nous disait que on a besoin, on va avancer au prochain clic. C'est bon? OK. Donc, on a besoin de grandir et d'être responsable plutôt que de créer une autre douleur qui est de faire du blâme. Deux femmes, filles d'une mère alcoolique, Il y en a une qui est devenue alcoolique, puis l'autre qui est devenue sobre, qui n'a pas touché à l'alcool. Quand on a posé la question aux deux, on est arrivé, on a posé la question à l'alcoolique, il dit, pourquoi tu es devenu alcoolique? Ben, elle dit, ma mère était alcoolique, est-ce que ce n'est pas une raison suffisante? Après ça, on s'est tourné vers la fille qui était sobre. On lui a demandé, elle dit, toi, pourquoi tu es sobre? Ben, elle dit, ma mère est alcoolique, n'est-ce pas une raison suffisante? Même réponse, résultat totalement différent. Voyez-vous ici, on a besoin d'apprendre à vivre comme des êtres responsables. On n'est peut-être pas responsable de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qui nous est arrivé, mais on est 100% responsable de comment on va répondre. Puis je trouve dans ma vie de l'immobilisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne bouge pas puisque je suis une victime. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je n'ai pas le choix. On n'est pas responsable 100% de ce qui nous est arrivé, on est responsable à 100% de ce qu'on va faire. Dans un monde qui est marqué par les pertes, le bonheur est parfois possible. Ça, c'est aussi une leçon que j'ai apprise, c'est que mes attentes sur la vie, c'est que la vie devrait toujours être belle. On ne le dit pas comme ça, mais c'est pourquoi vous pensez que les recettes à succès fonctionnent tellement bien dans notre monde? C'est parce qu'on a un paradis perdu et on essaye de le retrouver. Mais notre attente que le monde soit toujours heureux, c'est malade dans la tête. Penser que tu vas être heureux tout le temps, tu es malade. Tu as besoin d'être soigné. Tu n'es pas dans un paradis perdu, toi. Mais tu vas souffrir beaucoup. Si ton attente, c'est que la vie, tu as le droit au bonheur, tu as le droit, puis que le bonheur t'est dû. Dans un monde déchu, c'est la recette du désastre. Mes attentes doivent refléter que le bonheur est parfois possible, mais pas tout le temps. Puis le monde ne fait pas de sens non plus. Ça ne fait pas de sens. L'adultère ne fait pas de sens. Des parents qui battent leurs enfants, ça ne fait pas de sens. Je veux dire, l'homme qui se préfère à Dieu, ça ne fait pas de sens. Il y a plein de choses dans le monde aussi qui ne font pas de sens. Donc, on vit dans une culture du blâme, aussi, où on vit comme si la poursuite du bonheur était un droit et un dû, et dès que le bonheur nous est enlevé, nous blâmons quelqu'un ou quelque chose pour notre misère. Et là, la réalité, c'est qu'on vit dans un monde déchu. Laissez-moi vous parler de quelques trois petites situations qui vont nous montrer que vraiment, dans ce siècle-ci, en tout cas, je ne sais pas si ça a toujours été de même dans l'histoire des hommes, mais on a vu les premiers chapitres de la Bible, que c'est comme ça que ça marche, qu'il y a une culture du blâme. Je vous parle de ce maire-là qui a été maire, il s'appelait Marion, je pense que je suis obligé d'aller dans un autre document pour ça. C'est un maire de New York. Laisse-moi juste ouvrir mon petit PowerPoint que j'ai ça en commentaire. OK, lui a été pris, dans le fond, dans une opération d'infiltration. C'est l'ancien maire de New York des années 80. Là, on le surnommait un maire pour la vie. Il s'appelait Marion Barry. Il a été filmé en train de fumer du crack avec une prostituée dans une chambre d'hôtel. Et c'était une opération d'infiltration, donc quand ça a sorti dans les médias et tout ça, pour s'en sortir, il s'est défendu. Il a dit que c'était la faute de Seth qui lui avait tendu un piège. Et en cours, il a réussi à gagner une tape sur les poignets, là, simplement en disant que le procureur de la couronne était raciste. Et donc, il a réussi à s'en sortir avec une tape. Il a continué dans son mandat, là, sans problème. Ensuite, on a une autre histoire. Madame Rose Cipollone, a blâmé la compagnie de tabac pour son cancer de la gorge après avoir fumé 40 ans. Puis, un homme a voulu se jeter en bas d'un train pour se suicider et est devenu impotent des deux jambes et poursuivi l'ingénieur du train et la compagnie pour leur négligence. Finalement, Mme Cipollone a une compensation de 1,5 million $. Et l'homme du train s'en est sorti avec 650 000 $. Culture du blâme. Donc, pas prendre responsabilité pour pour qu'est-ce qui m'arrive. Donc, vivre dans un monde qui est déchu, ça implique que tout ne fera pas de sens. Puis il faut apprendre à rire. Il faut avoir du plaisir ou apprendre à rire de nous-mêmes parce qu'on est dans un monde, justement, c'est une vraie joke, là. Je veux dire, Pierre puis Silas prêchent l'Évangile puis ils se font battre, tu sais. C'est quoi l'affaire? Ben, dans un monde déchu, tu ne pourras pas plaire à tout le monde parce que si tu plais à certains, tu vas être dans le collimateur de d'autres. Déjà là. Dire, okay, tu vas faire le bien, tu vas même être persécuté pour le bien que tu as fait. Tu sais. Fait que ça, c'est une vraie joke aussi. Mais c'est qu'est-ce qu'ils ont fait, Paul et Silas? Ils ont chanté un cantique dans la prison. Ils ont trouvé une manière de se réjouir dans le Seigneur quand même, dans un monde qui ne fait pas beaucoup de sens. Pourquoi? Pourquoi est-ce que dans notre prison, on peut trouver une chanson? On peut trouver une chanson dans notre prison parce que Dieu nous aime. Puis le futur est possible avec Dieu. Adam s'est fait dire que quand il cultiverait le sol, dorénavant, ça serait difficile pour lui. Mais Ecclésiaste dit que c'est dans le travail de ses mains que l'homme va trouver son bonheur. Punition, correction, joie dans la correction. Ève va avoir de la difficulté à enfanter, ça va être avec douleur dorénavant qu'elle va enfanter, mais la parole nous dit ailleurs que la douleur fera place à la joie et même à l'oubli, parce qu'elle est tellement heureuse d'avoir son enfant. La joie de l'enfant va enlever toutes les douleurs de l'enfantement qu'elle a eu quand elle a accouché. Et donc, le futur est possible. Dans un monde où c'est une vraie joke, à cause du péché, à cause de la méchanceté de l'homme, à cause de tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, il y a un Dieu qui nous aime. Puis il y a un Dieu qui est un rédempteur, qui prend les choses puis il les fait tourner pareil à notre bien. Ça, c'était le message de la semaine passée. Et alors que je lis le livre de la Genèse, c'est ainsi. J'ai lu l'histoire de Jacob, j'ai lu l'histoire de Joseph. Je m'aperçois, par exemple, dans l'histoire de Jacob, que Jacob s'est fait voler 10 fois par son beau-père. Puis, il n'hésite pas à dire « Tu m'as changé mon salaire 10 fois. » Mais on ne sent pas une amertume, puis le blâme en voulant dire « Je suis ça à cause de toi, à cause que tu m'as promis Rachel, mais tu m'as donné Léa, puis à cause que tu m'as... » Non, on ne sent pas ça. On sent un Jacob qui sent que son futur est possible. Parce que son bétail finit par grossir pareil, puis il finit pareil par s'enrichir, même si l'autre, il change son salaire 10 fois. Tu vois que Dieu lui donne une certaine sagesse pour faire accoupler les animaux qui étaient plus robustes ensemble, puis laisser les chétifs de côté. Puis c'était ceux qui étaient marqués, rayés, tachetés, que Jacob pouvait garder. Fait qu'il y a eu une manière de faire, puis Dieu le fait prospérer pareil. Puis on voit un futur possible, puis on voit aussi que le temps a fait son œuvre. Jacob, là, quand il voit Ésaü, pour ceux que l'histoire est peut-être un peu moins connue, Ésaü a voulu le tuer. Littéralement, quand il a su qu'il avait fait un repas de viande à son père, il s'était fait passer pour son frère, puis il a usurpé la bénédiction. Son frère voulait le tuer, puis en tout cas, l'histoire, c'est qu'il s'est en allé. Fait qu'il était loin de chez eux. Il était loin de la maison de son père, alors qu'il est supposé d'avoir le droit d'aînesse, c'est-à-dire le double de la part de l'héritage du paternel. Puis il avait dit à Dieu, « Si jamais tu me fais revenir dans la maison de mon père, là tu seras mon Dieu. » Puis dans le temps comme dans le temps, il a fini par revenir vers son frère. Bien, son frère est venu vers lui, puis là il savait qu'il était pour venir avec lui. Puis on voit le temps pareil, qu'est-ce qu'il a fait. Jacob s'est quand même mis à genoux, hein. Il a imploré d'y garder la vie sauve. Puis Ésaü, le temps, avait fait son travail aussi. Parce qu'il y a quelque chose aussi, Ésaü voulait le tuer au début. Pourquoi là, il ne veut plus le tuer? Il ne veut plus le tuer parce que le temps a passé, puis Ésaü a vu qu'il était lui-même quelqu'un qui négligeait les choses spirituelles et puis la bénédiction du Père. Il a vu ses propres failles. Il a eu le temps de voir qu'il était aussi responsable. En tout cas, les frères se sont réconciliés, sont revenus, puis je trouvais ça beau. Joseph, puis en passant, voir sa propre part dans tout ce qui est arrivé dans le passé, ça ne veut pas dire d'aller se courber puis nécessairement d'aller avouer tout ce qu'on a fait à quelqu'un d'autre. C'est d'apprendre de nos erreurs, d'être honnête avec nous-mêmes. Mais Joseph, quand il était jeune, il disait à ses frères, hey, « Vous vous courbiez devant moi. » Tu sais, puis il était comme content de dire à son père, puis sa mère se courbait devant lui, puis tout, tu sais, mais jeune, là, tu sais, puis comme fier de sa vision. Puis ses frères, ils ont devenu jaloux de lui, puis à un moment donné, bien, il n'y a pas un qui s'est ostiné puis dire qu'il ne devrait pas, avoir une leçon, le jeune. Tous les frères, ils ont dit non, il a besoin d'une leçon, mais il y a certains qui ont dit non, on ne le tuera pas quand même. T'sais. Je pense que c'est Ruben puis Judas, je pense. Ils ont dit, on va juste le mettre dans un puits, puis ah tiens, on le vend comme un esclave, puis tout ça. Puis là, ils vont déchirer les vêtements, ils vont mettre du sang là-dessus, puis c'était le préféré du père. Fait qu'en blessant le frère, ils ont blessé le père aussi. T'sais. Là, tu regardes toute cette histoire-là, puis tu te dis, crème, il y a la recette de l'amertume dans cette histoire-là. Je veux dire, si quelqu'un pourrait être amer, c'est bien Joseph. Et plus tard, qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire, finalement? On voit que le temps, plus Dieu qui nous aime, rend le futur possible. On voit, en plus, Joseph, il est là, puis il sert son maître, puis à un moment donné, la femme, elle se met à poil, là, tu sais, puis elle dit, alors, couche avec moi, tu sais. Puis lui, qui est tellement intègre, il part à courir, puis je pense qu'il a mis la robe dans les mains, je ne me rappelle pas cette partie-là. C'est quoi? Ah non, elle a gardé une partie de son vêtement. Il a arraché un morceau de vêtement, puis elle a dit, garde, il a voulu me violer, tu sais. Je veux dire, il y a la recette là-dedans pour être amer, puis dire, c'est comment tu veux que je sois? Je suis né pour un petit pain, regarde comment je suis méprisé et méprisable. Puis il est en prison. Puis là, on voit dans cette histoire que Joseph, dans le fond, on lui confiait des prisonniers, qui étaient responsables dans la prison, qui réussissaient tout ce qu'il faisait, qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il n'a pas choisi l'immobilisme. Il n'a pas choisi, c'était terminé, il était la victime des autres. Puis quand était le temps, il est devenu l'assistant après le pharaon. Puis le pharaon a dit, il y a une seule différence entre toi et moi, c'est le titre, c'est tout. Tiens les clés de mon royaume, fais ce qu'il faut pour pas qu'il y ait une famine. Puis il a été élevé, il est élevé comme ça. C'est une vraie joke, le monde, c'est une vraie joke. C'est un monde où tout ce qui est possible peut arriver, tu sais. Mais il y a un Dieu qui nous aime. Puis il faut apprendre à rire. À rire et à trouver une chanson dans notre prison. Nouveau départ, son père vient vivre à Goshen, dans un endroit où ce que les bergers sont méprisés, tu sais, mais en même temps, ils n'ont plus rien à manger. Tous les Égyptiens ont tous vendu leurs terres, leurs animaux, ils ont tous vendu pour avoir du grain. Ils sont devenus les esclaves du pharaon. Tu sais. Nouveau départ. Mais Joseph a retrouvé ses frères. Puis il dit quelque chose d'intéressant, ses frères, ils ont la chienne de se faire tuer, parce que là, je veux dire, il est le deuxième après Pharaon, il pourrait vraiment, là, c'est le temps de remettre le change de la monnaie. Qu'est-ce qu'on voit? C'est pas vous, mes frères, c'est Dieu. Hein? C'est pas vous, mes frères, c'est Dieu qui a voulu que je vienne en Égypte. Mais oui, mais c'est eux qui l'ont... Mais il n'était tellement pas dans une pensée de blâme qu'il était capable de voir que même dans un monde qui est marqué par les pertes et les déceptions, il y a un Dieu qui nous aime, qui est capable de prendre quelque chose de mal et le transformer en notre bien. Ça, c'est merveilleux. La suite de notre histoire. Est-ce que je l'ai lu, la suite de l'histoire? Ça n'a pas fini avec un hamster que le petit gars il se faisait donner des tapes sur ses fesses. Fait que là, l'auteur, dans le fond, Neil, il dit, « Quelles que soient mes menaces, en lui donnant des tapes sur le derrière jusqu'à temps qu'il avoue, Carl ne voulait pas avouer, j'étais irrité, j'ai finalement laissé tomber. Quelques jours plus tard, Joanne m'accueillit de nouveau sur le pas de la porte. Tu devrais parler à Carl. » Qu'est-ce qui s'est passé encore? Johnny est mort. Mais là, il n'a pas relancé sur le mur. J'ai trouvé Carl dans le jardin qui pleurait son petit hamster qui était étendu sur un petit morceau de tissu. Nous avons parlé de la mort, puis nous avons enterré Johnny et nous avons été au magasin acheter un nouvel hamster. Le lendemain, Joanne m'accueillit encore à la porte. Et maintenant, qu'est-ce qui ne va pas, soupirai-je. Carl a déterré Johnny. J'ai de nouveau trouvé Carl dans le jardin, pleurant un petit hamster tout raide, couvert de terre, qui était couché sur un petit morceau de tissu. Carl, je pense qu'on a oublié de faire un enterrement chrétien pour Johnny. Alors, j'ai fait une petite croix avec deux bâtons et Carl et moi avons encore parlé de la mort. Nous avons de nouveau enterré Johnny et mis une croix sur la tombe. Carl, je pense que tu devrais prier maintenant, ai-je dit. Non, papa, toi, prie. Carl, Johnny, c'était ton hamster, je pense que tu as besoin de prier. finalement, il donna son accord. Voici sa prière. « Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas lancer mon nouvel hamster. » Ce que je ne pouvais pas soutirer de lui avec un bat en plastique, Dieu l'a retiré de son cœur. Pourquoi? Karl m'a-t-il menti? Il pensait que l'aveu de sa faute lui aurait fait perdre mon amour. Il était prêt à mentir pour garder mon amour et mon respect. Je me suis abaissé et j'ai mis mes bras autour de mon petit garçon. Karl, je veux que tu saches quelque chose. Quoi que tu fasses dans la vie, je vais toujours t'aimer. Tu peux être honnête avec moi et me dire la vérité. Je ne serai peut-être pas toujours d'accord avec ce que tu fais, mais je t'aimerai toujours. Ce que j'ai dit à Karl en ce jour-là est un pâle reflet de l'amour de Dieu pour vous. Il vous dit, « Je veux que tu saches quelque chose. Quoi que tu fasses dans la vie, je vais toujours t'aimer. Tu peux être honnête avec moi et me dire la vérité. Je ne serai peut-être pas toujours d'accord avec ce que tu fais, mais je t'aimerai toujours. Dieu veut que nous acceptions notre identité en lui et que nous vivions comme des enfants de Dieu, que des enfants de Dieu devraient vivre. Mais même quand nous nous oublions qui nous sommes, il nous aime toujours. Il veut que nous marchions par l'esprit et par la foi. Et même si nous trébuchons sur la route, il nous aime encore. » L'identité. C'est bon, hein? Donc, l'amour de Dieu est la base de notre identité. Et être sûr dans l'amour de Dieu m'aide à me dissocier de ce que j'ai fait. Dieu dit, « J'aime pas ce que tu as fait, mais je t'aime toi. T'as-tu mangé de l'arbre que je t'avais dit de pas? Oui, je l'ai fait. On fait quoi à partir de là? Je l'ai fait. » Savez-vous quand est-ce qu'on avoue nos failles? Quand on se fait pogner. On n'a pas besoin. On peut être devant Dieu et dire, « Sais-tu quoi? J'ai vraiment foiré ici, Seigneur. » Puis au lieu de jouer à la game de « C'est qui a tort? » « Seigneur, j'ai tort. Montre-moi qu'est-ce que j'ai eu tort puis comment je peux faire mieux. » On n'a pas besoin de lutter pour préserver d'être aimable devant Dieu. Et moins on va le faire devant Dieu, plus qu'on va être libre devant les hommes aussi. Moins on va le faire devant Dieu, moins on va le faire aussi devant les hommes. On peut regarder les échecs, nous informer, pas nous déformer. C'était quelque chose que j'avais dit ça le dimanche passé. L'histoire nous sert à nous informer, pas à nous déformer. Mes échecs du passé m'informent. Parce que si on veut recommencer, si on veut faire différemment, il faut comprendre ce qui a été notre part dans notre histoire négative. Il faut comprendre cette partie-là. Parce que si on vit dans le blâme, bien, ça va être la faute. La prochaine fois, ça va être la faute juste de quelqu'un d'autre. Alors qu'il y a une partie qui est dans mon histoire, j'ai une biographie de mon histoire négative que je répète et que je pourrais changer. Mais il faut que je l'assume, ça. Donc, il faut que je laisse mes échecs m'informer, pas me déformer, parce que je demeure quelqu'un que Dieu aime profondément. Et je peux poser la question à ce moment-là. Si je dis ceci, ce que je fais de ce que je suis, je suis capable de dire, bien, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et comment j'aurais pu mieux agir? Et donc, on connaît tous cette prière-là de la sérénité que souvent dans les alcooliques anonymes, on va réciter. « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, donc mon histoire, les choses que je n'ai pas de contrôle dessus, mais le courage de changer les choses que je peux, puis la sagesse d'en connaître la différence. » J'arrive à ma conclusion. Imaginez qu'on accepte de prendre responsabilité dans un monde déchu, qu'on accepte que le monde, c'est possible d'être heureux, mais que ça ne sera pas possible de l'être tout le temps. Si on accepte que dans ce monde-là, tout peut arriver, que Dieu nous aime, puis que même si ça n'a pas tourné comme que ça devrait dans ma vie ou dans le monde, il y a un Dieu qui m'aime et qui peut faire concourir ces choses-là à mon bien. Je vais commencer tranquillement à avancer dans un monde meilleur. Je vais commencer à dire, « Hey, sais-tu quoi? » Je vais arrêter de rester immobilisé dans la victimite. Victimite aiguë. La victimite de « je suis le résultat juste des autres. » Je vais mettre mon énergie à devenir meilleur. Puis je ne vous parle pas que c'est Dieu qui va vous rendre meilleur, puis je fais par exprès. Peut-être que ça glitch. Savez-vous quoi? Je ne dis pas pour que ce soit Dieu qui vous rende meilleur. Parce que si vous ne devenez pas meilleur, vous allez dire quoi? Eh oui, Dieu ne l'a pas fait. T'as pas arrêté de fumer? Non, Dieu ne l'a pas encore fait dans ma vie. Voilà, une victime de Dieu encore. Hein? On n'a pas déjà entendu des histoires comme ça? La personne qui dit, ben Dieu ne l'a pas encore fait, donc tu as ce que tu as. Non, on n'est pas juste immobile. On est participant et co-régent avec Dieu pour dominer dans ce monde-là, donc de changer aussi. C'est sûr que c'est Dieu qui fait le travail, mais on s'attache à lui, puis on va mettre notre énergie à s'attacher à lui pour devenir meilleur, au lieu de s'épuiser à prouver qu'on n'est pas si pire que ça. Dieu dit, arrête d'essayer de me montrer que tu n'es pas si pire que ça. J'ai formé le cœur, je connais exactement les pensées de ton cœur. On n'a pas besoin d'aller se cacher derrière un buisson qui ne couvre, qui ne cache pas tout, puis de se mettre une feuille de figue qui ne comble pas tout. Okay? Dieu dit, je te vois, mets pas ton énergie à prouver que tu n'es pas si pire que ça, mets ton énergie à devenir meilleur. Donc, laisse tes échecs t'informer. Mets ton énergie à faire des choix pour changer ta situation au lieu de croire qu'il n'y a rien à faire, tu es juste la victime des choix des autres. Est-ce que tu es en train de donner ta meilleure shot? Non, pourquoi? À cause des autres. Devant Dieu, c'est toi puis lui. Et moi, je suis responsable de donner ma meilleure shot devant Dieu. Est-ce que je suis en train de donner ma meilleure shot à Dieu? Au lieu de penser qu'il n'y a rien que je peux changer. Mettre mon énergie à avoir en moi une attitude pour affronter l'avenir au lieu de me condamner à dire que je ne peux pas rien faire. Et donc, le titre de mon message, c'est « Vivez en vainqueur, non en victime ». Amen. Merci. Seigneur Jésus, merci pour cette possibilité, Seigneur, quand on regarde l'histoire même d'Adam et Ève, Seigneur, que même si le monde est difficile, que le sol produit des épines, que ce monde-ci, ce n'est pas un monde où on peut être heureux souvent, mais c'est possible de l'être parfois. Que le travail de l'homme, c'est ce qui le rend heureux. Que même la douleur de l'enfantement produit éventuellement une joie. Et que même si ce n'était pas dans le monde idéal, la souffrance n'était pas dans le monde idéal, mais était dans le meilleur monde possible, à cause de ça, Seigneur, il y a un Dieu qui nous aime puis qui va prendre ce qu'on a fait de mal. Puis si on le prend du bon bord, si on est vrai avec toi, Seigneur, tu vas nous donner un nouveau futur, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à réaliser qu'on n'est pas ce qu'on fait, Seigneur. Puis que même si on a échoué, même si on a échoué, on n'est pas moins aimable. Je vais juste attendre un petit peu. Seigneur, on prend beaucoup d'énergie, Seigneur, pour montrer qu'on n'est pas si pire que ça. On a peur d'être rejeté par les autres. Puis dans ce monde déchu, Seigneur Dieu, c'est notre identité qui est en jeu. Aide-nous à être des gens sécures qui n'ont pas peur, ils n'attendent pas de se faire pincer quand ils ont mal fait, pour avouer. Des gens honnêtes, qui savent que leur intégrité n'est pas en jeu, que leur sécurité n'est pas en jeu. La semaine passée, on a vu que c'était important d'avoir une attitude de découverte et une attitude d'humilité. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est réaliser qu'on est participant. On veut apprendre. On est participant aussi à notre futur en laissant de côté le blâme. On est chacun devant toi, Seigneur, et c'est chacun d'entre nous qui devra un jour rendre des comptes. Puis que si on a utilisé le blâme comme un écran protecteur pour ne pas se sentir rejeté, bien, on laisse ça de côté. Si on a utilisé les blâmes pour dire, je ne suis pas obligé d'avancer, je pas obligé de donner ma meilleure shot. Regarde ce que les autres ont fait. Bien, on laisse ça de côté aussi. Ah, ben moi, je ne peux pas servir le Seigneur. Moi, j'ai perdu la santé. Alors, on met ça de côté aussi. On arrête de vivre dans les excuses. Puis on choisit de vivre comme responsable dans un monde qui est marqué par les pertes. Puis on trouve notre chanson dans la prison. Puis on apprend à rire un petit peu. Parce que des fois, c'est une grosse farce. Si vous êtes ici ce matin, vous écoutez cet enregistrement-là, le monde que Dieu a créé, c'est le monde, c'est pas le monde idéal, mais c'est le monde possible, le meilleur monde possible que Dieu a pu créer. L'homme a choisi de se choisir lui-même au lieu de choisir Dieu. Mais Dieu n'a pas arrêté là. Il a dit, OK, parfait. Là, je vais venir te sauver quand même. Il est venu sur la terre dans la personne de Jésus-Christ. Il a pris sur lui le poids de vos péchés, c'est-à-dire la condamnation que vous méritez, c'est lui qui l'a pris, pour que vous puissiez choisir de revenir à lui. Si vous faites ce choix-là, c'est que vous reconnaissez que Jésus a porté votre punition que vous méritiez, qu'il est mort sur vous, qu'il est ressuscité des morts pour vous préparer une place au ciel. Dieu est venu prendre quelque chose de mal, puis il l'a transformé en bien pour votre bien. Il vous permet d'être sauvé à nouveau. Tout dépend de sa grâce. Il n'y a rien en vous qui était attirant au point que Christ vienne mourir. C'est-à-dire une œuvre bonne que vous auriez faite, qui aurait dit, « Oh, mon ami, ils ont été tellement bons, je vais revenir les racheter. » Non, c'est son amour. Vous êtes attirant parce qu'il vous aime, point. Pas ce que vous faites, mais ce que vous êtes. Si vous acceptez cet amour-là qu'il a manifesté dans la personne de Jésus, bien, vous pouvez avoir la vie éternelle puis recevoir le pardon de vos péchés. Il suffit de croire qui Jésus est et ce qu'il a fait pour vous et reconnaître que sans lui, vous ne pouvez pas être sauvé. Si vous voulez recevoir la vie éternelle, priez avec nous de cette manière. Non pas que la prière, de la façon qu'elle va être dite, va être importante, mais ce qui est important, c'est chacun des énoncés qui va être dit, c'est ce qu'il faut croire pour être sauvé. Bien, mon souhait, c'est que vous ne le fassiez pas d'une façon machinale, ou comme d'une formule magique, et que vous compreniez cette prière-là, puis que vous la faisiez vôtre. On va la faire avec vous en geste de courtoisie. Répétez-la avec nous. On la fait juste une fois, cette prière-là. Ce qui est important, c'est de croire ce que vous priez. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai entendu que tu m'aimes tellement que tu es mort sur la croix pour être puni à ma place. Je crois que tu es ressuscité des morts pour me donner la vie éternelle. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Amen. Si vous avez fait cette prière-là pour la première fois, je vous encourage de vous joindre à une église locale qui enseigne la Bible pour que vous puissiez vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Bonne journée tout le monde.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.